Nzamba.
Nzambira samirana.
Le journal avec Alice Akiman.
Radio Nzamba Gatika Kawe, merci d'être à ce rendez-vous de l'actualité en français. Les titres de ce jeudi 14 juillet 2022. Agression physique hier soir contre Mohamed Ferouzi, ancien gouverneur de Muyinga, réfugié à Mayotte. Il est dans un état critique selon une source médicale. Un habitant de Kayanza écope de la prison à vie et d'une amende de 20 millions de francs burundais pour un meurtre commis la semaine dernière. Le verdict a été rendu ce mercredi au cours d'un procès de flagrance au tribunal de grande instance de Kayanza. Écrit d'alarme de la coalition des défenseurs des droits des réfugiés CBDH à l'endroit de la communauté internationale. Les droits des réfugiés burundais en Tanzanie sont constamment violés. La communauté internationale devrait donc agir pour mettre fin au calvaire de ces réfugiés, selon la CBDH. Et voilà pour le sommaire.
Suivez les émissions de la radio Nzamba en direct sur le www.nzamba.org.
Bienvenue à tous. Je vous le disais en titre, un Burundais a été grièvement blessé à l'armée blanche à Mayotte. Il s'agit de Mohamed Ferouzi, l'ancien gouverneur de la province de Muyinga. Il a été attaqué hier soir par des malfaiteurs non encore identifiés, selon des sources sur place. Cela préoccupe ses compatriotes vivant à Mayotte. On fait le point avec Pierre Gaungu.
C'était ce mercredi soir, quand Mohamed Ferouzi est tombé dans cette embuscade des malfaiteurs qui l'ont gravement tabassé avant de le dépouiller de tout ce qu'il avait. Pour le moment, il est en train de bénéficier des soins médicaux. Un des autres Burundais qui vivent avec lui sur l'île de Mayotte nous raconte les faits. Il regrette que ce ne soit pas la première fois qu'un Burundais soit agressé de cette façon.
Hier soir, j'ai demandé d'asile burundais, du nom de Ferouzi Mohamed, qui a été attaqué, blessé grièvement. Il aurait une fracture au niveau du crâne et les services médicaux sont à l'œuvre, mais que son état de santé est très critique. La police aurait commencé des investigations. Mais cette étape de choses est très vraiment préoccupant, surtout que c'est pas la première fois, je me rappelle en 2020, il y a une certaine syriaque qui était réfugié burundais, il a failli être tué, il a failli être lynché par des gens, bon, je sais pas si ils ont été identifiés. Mais des cas aussi d'autres cas isolés d'agression, de vol, s'observent souvent.
Ce Burundais qui a voulu garder l'anonymat demande aux autorités de l'île de Mayotte de s'occuper sérieusement de la sécurité des demandeurs d'asile et des réfugiés.
Moi, en tant qu'un des Burundais vivant sur l'île de Mayotte, je suis vraiment très préoccupé par des actes de barbarie, des agressions qui nous arrivent. Nous demandons au gouvernement vraiment de doubler des efforts pour notre sécurité, pour éradiquer ces actes, de les dénoncer sur toutes ces situations, sur toutes les sources potentielles d'insécurité.
Ce Burundais a également appelé ses compatriotes à rester sereins et solidaires et alerter à temps sur des cas de barbarie pareille.
Et actualité judiciaire à présent, une peine à perpétuité et une amende de 20 millions de francs burundais de dédommagement moral. Tel est le jugement rendu par le tribunal de grande instance de Kayanza dans un procès de flagrance contre Jérémy Boutigilira de la colline Gaye en commune Matongo. Il est accusé d'avoir assassiné un certain Denis Abouchimike, surnommé Bikwakwara, de la colline Bandanga, en commune Matongo. Le crime a été commis la semaine passée. Plus de détails avec Georges Nimeya.
À sa comparution devant le tribunal de grande instance de Kayanza, Jérémy Boutigilira a été accusé par le procureur de la République d'avoir tué avec préméditation en date du 8 juillet un certain Denis Abouchimike, alias Bikwakwara, un crime qui a été commis à coups de poignard. Dans sa plaidoirie à la barre, Jérémy Boutigilira a d'abord nié toutes les accusations, mais il a fini par avouer toute vérité au siège. Concluant son réquisitoire, le procureur de la République à Kayanza a demandé au tribunal de réprimer son crime par une peine à perpétuité contre le prévenu et le paiement d'une amende de 20 millions de francs burundais, tout dédommagement moral destiné à la famille de la victime. Après la mise en délibéré, le tribunal a condamné Jérémy Butigirira a une peine criminelle à perpétuité et le versement d'un dédommagement moral de 20 millions de francs burundais conformément aux réquisitoires du procureur. S'il ne verse pas ce dédommagement moral, il sera infligé une peine de servitude pénale de 100 ans. Le même jour, le même tribunal de grande instance de Kayanza a condamné un certain Jean Niyonsaba de la colline Kidunduri en commune Kabarore pour avoir été attrapé en date 17 juillet courant alors qu'il tentait d'acheminer à l'étranger 5 kilos de minerais de corombo tantalite coltant avec une machette à la main. Ce qui a été conçu par le tribunal comme une préméditation de vouloir opposer un bras de fer avec les forces de l'ordre.
Et restons dans le domaine de la justice et pour parler de l'arrestation hier d'un habitant de la colline de Gachacha en commune et province et Rumonge. Les habitants de cette localité crient à l'injustice. L'homme interpellé est accusé par les autorités administratives et policières de Rumonge d'avoir propagé sur les réseaux sociaux des informations sur l'abattage illégal d'une vache sur la même colline. Des détails avec Eddie Claude Ninaz.
Le jeune détenu s'appelle Siwoman Justier, connu sous le sobriquet de Para. Il a été arrêté ce mercredi sous l'ordre du gouverneur de la province de Rumonge, selon des sources émanant de cette province. Ces mêmes sources sur la colline Gachacha indiquent que le concerné est accusé d'avoir livré des informations en rapport avec l'abattage d'une vache sur la sous-colline Wuganga de la colline Gachacha. La vache présentait des signes d'une maladie, affirment nos sources. Ils indiquent que le gouverneur de Rumonge, accompagné du directeur du bureau provincial en charge de l'élevage, du commissaire provincial de la police, se sont rendus sur les lieux de la même sous-colline. Ils ont trouvé l'information authentique avant de brûler et enterrer la vache abattue. Consolateur Nitunga part après ordonner l'arrestation immédiate de Justin surnommé Para, l'accusant d'avoir alerté la population. Des habitants de la colline Gachacha dénoncent cette arrestation qu'ils jugent injuste. Ils parlent d'une couverture de la chef collinaire. Selon eux, c'est Frida Ndagijimana qui a autorisé l'abattage de la vache et aurait reçu une somme de 150 000 francs comme pot de vin.
Il n'a rien fait à part alerter. Et l'information qu'il a donnée était vraie. Il y a une vache qui a été abattue et les administratifs y ont été pour faire le constat. Donc, on ne comprend pas pourquoi il a été arrêté alors qu'il l'a fait pour le bien de la population afin qu'il ne mange pas la viande malade. Ce qui a été fait, comme d'habitude, par le gouverneur est d'essayer de couvrir le chef de colline Gachacha, et ce dernier se dit intouchable.
Depuis ce mercredi, Justin surnommé Para est détenu au commissariat provincial de la police en province de Rumonge. Des habitants exigent sa libération.
Nous, nous demandons que justice soit faite et que celle qui a donné l'autorisation d'abattre cette vache soit arrêtée contrairement à celui qui nous a alertés. Ici, sur la colline d'Achacha, nous trouvons qu'il est innocent.
Une autre femme propriétaire de la vache abattue est aussi détenue au même cachot. Des autres qui l'ont abattue ont pris le large et sont activement recherchés par la police, selon nos sources à Rumonge. La rédaction de la radio Inzamba a essayé de joindre par téléphone le consolateur Nitunga, gouverneur de cette province, mais en vain.
Inzamba.
Et droit des réfugiés à présent, la communauté internationale devrait se mobiliser pour empêcher les autorités tanzaniennes de maltraiter les réfugiés. Appel lancé par la coalition burundaise des défenseurs des droits de l'homme dans les camps des réfugiés. Mardi dernier, tous les moulins appartenant aux réfugiés burundais ont été démolis au camp de Nyarugusu. L'organisation regrette que les réfugiés burundais continuent d'être maltraités alors que le HCR ne cesse de demander à la Tanzanie de respecter les conventions qu'elle a ratifiées. On écoute Léopold Chalangawo, vice-président de la CBDH Vicar.
Si on analyse bien le pays d'accueil a beaucoup d'influence sur la gestion des réfugiés que le HCR. Même les conventions de Genève signées et ratifiées en rapport avec les réfugiés a beaucoup accordé la force d'influence au pays d'accueil. Par exemple, un pays d'accueil peut réserver sur l'un ou l'autre article. Le pays d'accueil a le droit de dire qu'il n'est pas à mesure d'accueillir les réfugiés et qu'on sort. C'est pour cette raison que le harcèlement des réfugiés burundais continue, malgré les rapports ainsi que les communiqués des harcèlements en Tanzanie. Le harcèle n'a pas d'influence. Aussi longtemps que la communauté internationale n'intervient pas, ne suit pas cette situation comme elle faisait en 2020 et 2021, la situation deviendra grave que nous voyons aujourd'hui.
Et le fait que ce sont les réfugiés burundais qui sont maltraités alors que les réfugiés congolais jouissent pleinement de leurs droits relève d'un accord confidentiel conclu entre le gouvernement burundais et la Tanzanie sur le traitement des réfugiés burundais, selon Léopold Chalangabo.
Ce sont les réfugiés burundais qui sont menacés seulement parce que les deux gouvernements, donc le gouvernement burundais, celui de la Tanzanie, ont des bonnes relations qui datent longtemps. Par conséquent, le gouvernement tanzanien ne fait tout ce que le gouvernement burundais voudrait. La stabilité vicaire exhorte d'abord au deux gouvernements de ne pas prendre les réfugiés comme bouclier politique. Et la communauté internationale doit continuer à suivre de près cette situation et prendre des décisions nécessaires pour que les réfugiés burundais puissent continuer à vivre en paix.
Et c'était le prochain Ngabo, vice-président de la CBDH, vicaire. En page éducation, à partir de la prochaine rentrée scolaire, les classes montantes des écoles fondamentales et post-fondamentales qui comptent moins de 25 apprenants seront supprimées pour réaffecter ces élèves dans d'autres établissements. L'instruction a été donnée par le ministre de l'Éducation à tous les directeurs provinciaux de l'enseignement en début de semaine. Cette décision est illogique selon Elaline Ivizi, ancienne présidente du syndicat des enseignants STEB. Elle explique qu'il faudrait plutôt décharger les classes surpeuplées. On l'écoute.
C'est une décision qui vise seulement à chercher les enseignants, à récupérer les enseignants qui enseignent dans des classes à taille inférieure, à petite taille, et de les répartir dans les autres écoles. Ça aurait été une solution, une décision équitable si ils avaient décidé de décharger les classes qui ont des effectifs trop élevés et de répartir les élèves d'autres dans les écoles, dans les classes à effectifs faibles. Par exemple, ces classes-là qui ont 25 élèves, s'ils pouvaient être complétés jusqu'à 35-50 élèves, ce serait logique. Mais s'ils déchargent les classes à effectifs moindres et qu'ils vont les ajouter à des classes qui sont déjà surpeuplés, vous comprenez que ce serait décharger un enseignant pour aller en charger un autre. Ce serait décharger une classe, décharger des matériels scolaires et décharger les enseignants, mais pour aller les surcharger ailleurs. Alors, c'est pas logique parce que quand une classe est nombreuse et de 50 à plus, et c'est une grosse perte, même un investissement à perte, parce que l'enseignant ne sera pas capable d'enseigner ces élèves-là, et on le voit sur la qualité, les résultats des élèves, mais aussi sur les capacités des élèves, sur la capacité d'encadrement de l'enseignant. Ma préoccupation est que ces enfants qui seront déplacés d'une école à faible effectif, seront éparpillés dans différentes écoles avec le risque de fréquenter des écoles à longue distance. Les enseignants seront redéployés dans d'autres écoles, mais à des écoles à longue distance, au lieu de les maintenir là et de décharger le trop plein des autres écoles et des autres classes pour aller remplir les places vides dans ces écoles à faible effectif.
Et dernière nouvelle de ce journal, deux policiers ont été tués, 35 autres blessés dans les accidents de la route depuis le début de cette année. Révélation faite ce jeudi par le porte-parole du ministère de la Sécurité, Pierre Moulquier, qui se demande s'il ne s'agit pas d'une autre forme de criminalité visant les policiers. Suivez Pierre Moulquier.
Le ministère de l'Intérieur, du Développement communautaire et de la Sécurité publique regrette amèrement que des accidents de la route suspects visent des policiers en plein exercice de leurs missions légales partout dans le pays, occasionnant des morts et des blessés, dont des cas graves de ces agents chargés de l'application de la loi. À titre d'illustration, depuis le début de cette année 2022, 37 policiers ont été victimes de tels accidents qui ont causé la mort de 2 policiers, tandis que 35 autres ont été blessés et avec des cas graves. Le dernier accident ayant emporté la vie d'un policier ayant eu lieu ce 12 juillet 2022 à mairie de Bujumbura. Le constat est que pour la plupart de ces accidents, les véhicules impliqués viennent cogner volontairement ces policiers et les chauffeurs s'enfuient après l'accident, laissant sur place leur véhicule. Ceci renforce la suspicion du ministère qui se demande s'il ne s'agit pas d'une nouvelle forme de criminalité et d'agression déguisée contre les policiers. Le ministère rassure tous les policiers d'un soutien indéfectible vis-à-vis de leurs efforts inlassables dans leur noble mission et promet de tout mettre en œuvre pour déterminer les contours de cette nouvelle forme d'agression contre les policiers afin de réprimer les contrevenants.
Et c'est sur ces propos de Pierre Moulquier que se ferme ce journal. Merci de votre attention. Excellente soirée à tous. Au revoir.